vous trouve pas mal en tant que prof.
Ah bon, en prof?
Oui. Dans le film d'André Téchiné, vous voit dans un grand amphi en train de faire un cours, d'ailleurs assez difficile.
Oui, mais quand le texte est bien écrit, il suffit de vraiment de se concentrer, d'être vraiment dans les mots et dans le sens des mots pour que ça passe, je trouve, beaucoup plus facilement.
Oui, mais vous arrivez dans cet amphi bondé, vous vous asseyez, vous commencez à parler, et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, comme si, effectivement, c'était peut-être une profession que vous auriez pu épouser, enseignante.
Oui, ça, j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup la parole, j'aime beaucoup la communication, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, mais je pense que je n'aurais jamais eu les capacités, et surtout la patience et le dévouement, qu'ont les enseignants. Il faut, en dehors de ce que l'on transmet, il faut avoir quand même, je ne sais pas si j'aurais eu la patience, vous voyez, pour savoir, c'est plus que la transmission, je veux dire, l'enseignement, il faut vraiment ne pas se décourager, c'est très, les cours encore, parler aux gens quand on les a devant soi, mais après il y a un travail quand même très difficile, très, beaucoup plus ingrat, je trouve, beaucoup plus, non, je ne pense pas que j'aurais été capable, je ne parle pas des études, là on n'en parle même pas, non mais sur le fait, disons que j'ai mes matins, mes diplômes, je ne pense pas que j'aurais été capable d'enseigner. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup être avec des gens, j'aime beaucoup, j'aime bien parler aux gens, j'aime bien l'idée de... Sans doute parce que je crois que le travail d'actrice est un travail extrêmement solitaire, un travail très très solitaire, et c'est vrai qu'avec le temps, plus ça va, plus c'est vrai que j'ai envie de travailler avec une équipe, d'être avec des gens, j'aime cette idée qu'on fait un film ensemble. Mais plus ça va, plus ça m'est indispensable, de cette idée d'équipe, de troupe.
On parlait des voleurs avec André Téchiné. Il y a un long compagnonnage avec lui. Et je voudrais revenir à ce film des voleurs, parce que vous jouez donc une enseignante qui a, dans deux plans successifs, deux rôles très très différents que vous incarnez dans le même visage, les mêmes expressions. C'est-à-dire que vous êtes à la fois... le professeur de tout un amphi d'étudiants, et puis au plan d'après, vous devenez le professeur qui reçoit une de ses étudiantes avec qui il se passe une histoire d'amour. Et là, on passe de la prof qui collectivement enseigne avec la prof qui continue à enseigner, oui, mais aussi l'amour.
André Téchiné, c'est vrai qu'il m'a... Il m'a dit qu'il voulait qu'il y ait une relation homosexuelle. Au départ, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire? C'est vraiment... Vous voyez, c'est quelque chose que je ne connais pas. J'ai des amis homosexuels, femmes, c'est vrai, mais c'est quelque chose que je ne connais pas intimement. Donc je me disais, vraiment, ça me posait un problème. Ça me pesait un peu, parce que je trouve que ça marquait d'une façon très... Enfin bref, j'avais quand même des réticences. Et puis je me suis rendu compte, en lisant le scénario, que comme ce n'est pas une homosexuelle de base, on va dire, elle est amoureuse de cette femme, finalement c'est une histoire d'amour. Donc les mots sont les mêmes, les sentiments sont les mêmes, l'intensité de ce que l'on vit est la même, donc finalement il se trouve que c'est un objet féminin, mais c'est la seule différence. Et voilà, donc ça m'a posé aucun problème, parce qu'une femme qu'on aime, c'est comme comme elle est très jeune et que c'est une étudiante, à la limite c'est vrai que ça aurait pu être ma fille d'une certaine façon. C'est une jeune fille qui a l'âge de ma fille, donc non, ça c'est finalement Oui, mais c'est vrai que c'est une femme qui est un peu... Le personnage des voleurs, c'est une femme qui est un peu désespérée. D'ailleurs, ça se termine très mal, parce que elle a besoin d'avoir un but. Alors, c'est vrai que l'enseignement s'en est un. Sauver cette jeune femme, cette jeune fille de son milieu, de son contexte social, essayer de... À partir du moment où elle lui échappe et qu'elle s'en va, c'est vrai qu'elle n'a... Elle sent qu'elle n'a plus de raison de vivre, qu'elle a vécu assez longtemps, qu'elle n'a plus raison de continuer, ce qui est très, très éloigné de moi. Très très loin de moi.
André Téchiné vous propose-t-il des pistes de réflexion? Est-ce qu'il s'inspire de vous? Manifestement oui, parce que quand on reprend par exemple Ma saison préférée, qui est un film, je crois, auquel vous tenez, et où il se passe beaucoup de choses, là aussi dans l'ordre de la transmission, mais c'est entre une mère et une fille, on a l'impression qu'il vous vole, qu'il vous dérobe des moments de vous, et que vous êtes une sorte de muse.
Non, parce que la muse, c'est quelqu'un qui inspire et qui permet à quelqu'un ensuite de faire un autre travail à partir de la relation qu'il a eu, quelque chose qui serait totalement à côté. Vous voyez, la muse, c'est celle qui vous inspire et qui vous permet de créer, ce qui n'est pas le cas d'André. André Téchiné, je pense qu'il ne me vole rien. Je pense à un moment qu'on se connaît assez bien, qu'on se voit beaucoup, et que consciemment un peu, et inconsciemment aussi, surtout beaucoup, il y a forcément des... des choses de ma personnalité, en tous les cas des éléments, des mots, une façon d'exprimer certains sentiments qui me ressemblent. Mais ça ne peut pas non plus trop me ressembler, parce que j'aurais l'impression de ne plus jouer. Vous voyez, moi j'ai l'impression avec André de toujours creuser le même sillon d'un personnage qui aurait pu être ça, qui aurait pu être ça. Mais curieusement, c'est toujours un peu la même base de femme. Parce que André Téchiner, il a aussi un univers. Chez les hommes, c'est pareil. Je veux dire, il creuse toujours le même sillon pour un certain genre d'homme qui, en effet, peut avoir des destins différents et donc avoir un comportement différent, parler différemment. Mais c'est quand même les mêmes types d'hommes et de femmes.
En même temps, dans les films avec André Téchiner, il y a toujours des non-dits.
Et il y en a chez lui tout court, hein, de toute façon.
Je voudrais revenir justement à une scène absolument bouleversante qui est au début de ma saison préférée, où je ne sais pas comment il vous a parlé de cette scène, mais à un moment vous recevez donc votre mère dans le film, et après le dîner votre mère s'éloigne parce qu'elle a envie de marcher, il fait nuit, vous vous rangez la table, la maison à l'intérieur. Et vous vous apercevez que votre mère, c'est pas qu'elle déraille, mais elle parle tout haut. Et tout d'un coup, vous, la fille, vous rendez compte qu'elle parle tout haut.
Oui.
Mais en même temps, vous n'osez pas le lui dire.
Parce que je crois que dans ces cas-là, on n'ose pas se l'avouer complètement non plus. C'est qu'on n'ose pas le dire parce qu'on n'ose pas se le dire même à haute voix. Ce serait comme une... Oui, parce que je pense qu'il y a une forme d'angoisse et de panique quand même, et de doute. Oui, c'est très émouvant, c'est très émouvant. Oui. Mais ça, je pense que c'est une référence personnelle d'André Téchiner. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui lui appartient vraiment, ça.
Parce que une actrice, c'est quelqu'un qui parle, mais c'est aussi quelqu'un qui sait se taire. On a parlé de votre voix. Mais il y a aussi des moments dans plusieurs films, et je voudrais parler de la manière dont vous pouvez travailler ces scènes-là, où il y a des silences.
Les silences, c'est très... Au cinéma, je trouve que c'est très subjectif, le silence, parce que ça tient beaucoup à l'écoute de son partenaire, et c'est très instinctif en même temps. C'est pas quelque chose qu'on peut décider, ni répéter, ni... C'est quelque chose qui arrive quand on tourne. Quand on apprend son texte, quand on répète, en général, il n'y a jamais le rythme exact de la scène. Il ne peut pas, parce que les silences, c'est une chose tellement intime, ça fait partie d'une respiration intérieure. Donc peut-être qu'au théâtre, c'est différent, parce qu'au théâtre, on travaille tout. Mais au cinéma, quand on répète, je ne dis pas qu'on fait une chose dans un rythme très très différent, mais enfin quand même, ça n'a jamais exactement la même longueur. Les scènes, les scripts, elles le savent bien d'ailleurs. Quand elles minutent pour savoir combien de temps ça dure, elles savent très bien qu'à un moment on va tourner, ça va être plus long. Car on ne peut pas répéter des silences, on peut les jouer. Mais on ne peut pas les répéter. Et d'ailleurs, souvent, les silences ne sont jamais les mêmes d'une prise à l'autre, quand on tourne. Mais bien sûr que le silence se dit... Le silence, il dit à la fois ce qu'on vient d'enregistrer de l'autre, et en même temps, sa propre réflexion, ou son inhibition à ne pas dire, ou à hésiter, ou à attendre, c'est... Ouais, le silence, c'est vraiment les mots en creux. C'est la même chose.
Il y a beaucoup de silence, d'attente dans le film de Philippe Garrel, Le vent de la nuit. Et Garrel vous filme offerte au silence.
C'est le personnage dans le film de Garrel, dans Le vent de la nuit, c'est quand même une femme qui déraille. Qui déraille parce qu'elle n'est plus sur des rails. Donc c'est une femme qui est, d'ailleurs on le voit, elle prend des notes, elle écrit des choses, elle est totalement maniaque de ça, elle est un peu dépressive, elle est... Et c'est le silence parce qu'on sent qu'elle se parle dans sa tête. En vérité, c'est quelqu'un qui se parle à elle-même, qui n'exprime pas à haute voix. Je veux dire, c'est très décousu. C'est une femme très décousue. C'est une femme défaite quand même.
Il y a cette scène admirable où le mari, interprété par Jacques Lassalle,
oui,
qui vient lui aussi, alors, s'offrir à vous et se recueillir près de vous, comme s'il y avait une espèce de dimension presque religieuse dans cet amour.
Oui, moi, je vois surtout un homme qui veut sauver cette femme à tout prix, et qui la connaît bien, et qui en même temps sait qu'elle est, C'est pas un amour religieux, c'est un amour entier, total, je crois. C'est un amour où il la connaît avec toutes ses faiblesses, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle n'est pas, tout ce qu'elle ne peut plus être. Et il le sait, et voilà, il l'accepte comme ça. C'est un vrai amour.
Est-ce que le temps, justement, de méditation d'un film, le temps d'attente, le temps de silence, le temps de rumination intérieure avant le début de tournage d'un film, est nécessaire pour votre propre imaginaire?
Moi, c'est très bizarre parce que j'ai encore du mal à comprendre vraiment comment ça se passe, le travail, par moment, par rapport à un film, parce que finalement, une fois qu'on commence à aborder le début d'un tournage, on est dans des choses très concrètes. Il y a tellement de choses qui s'ajoutent, les costumes, les machins, les lieux, les décors, les trucs, l'installation. Mais il y a toujours pour moi une façon... Je lis souvent le scénario, non pas à l'envers, mais je relis souvent les scènes d'avant. Je commence par par l'extérieur, par la scène d'avant, et je m'approche, mais ça reste très bref, mais très intense pour moi, le tournage. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis toujours très fatiguée au tournage. Je suis toujours très, très fatiguée. Je vois d'ailleurs jamais mes amis ici le soir quand je tourne, mais par exemple dans la journée, j'aime pas du tout qu'on vienne me rendre visite, qu'on vienne me voir au tournage. Je suis là, mais je suis très peu disponible. Et c'est pas parce que je suis là sur le plateau à tourner ni rien, mais je suis dans un état de un peu de catharsis. Enfin, c'est très bizarre. C'est catharsis. C'est un truc de. Je dors d'ailleurs, mais je dors pas profondément, mais je dors. Ce qui veut bien. Enfin, je pense que l'attente. Les gens, ce qui me frappe le plus, c'est que les gens disent toujours mais comment vous pouvez faire travailler comme ça, attendre pendant des heures. Moi, je pourrais pas. Je m'ennuierais. Mais je dis, c'est très difficile d'imaginer, mais l'attente d'un acteur n'est pas du tout une attente de quelqu'un qui attend à la queue pour se faire servir dans un magasin, ça n'a rien à voir. C'est une attente qui n'est absolument pas vide, c'est pas une attente où on s'ennuie. Et moi je sais que je dors parce que c'est vrai que je recharge mes batteries, parce que c'est vrai que je trouve ça à la fois... Heureusement c'est léger aussi, hein, c'est pas non plus, il ne faut pas exagérer, c'est pas... Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez physique, d'assez fatigant pour moi, nerveusement. Parce que c'est vrai qu'on voudrait toujours être au moment où on va tourner, comme on a peu de temps, je veux dire, finalement, entre le moment où on répète et le moment où on tourne, pour être vraiment dans un certain état, dans une certaine... Oui, et quand je dis un état, c'est pas un état révolutionnaire, mais disons, pour être au plus près de la scène et du personnage, on n'a pas beaucoup de temps pour trouver ça. C'est vrai qu'il faut vraiment pouvoir tout de suite être in the mood for love. Mais en même temps, un tournage, c'est tellement étrange, c'est tellement... L'idée qu'on s'en fait d'une journée de tournage par rapport à ce qui se passe réellement... par rapport aux problèmes techniques, par rapport à la mise en scène, par rapport au lieu qu'on n'avait pas imaginé comme ça, que c'est très très difficile de pouvoir vraiment imaginer même comment on va se déplacer. C'est pour ça que moi j'aime bien toujours, le matin avant même, j'aime bien venir, si jamais on est en train déjà de faire une mise en place, de voir les choses, parce que tout le temps de préparation après, de se maquiller, de se coiffer, de s'habiller, qui prend quand même une heure et demie, c'est un temps où on a le temps de s'accommoder, de s'habituer, parce que c'est toujours étrange aussi de se retrouver dans un lieu comme ça qui n'est pas le vôtre, et d'un seul coup de trouver les... Vous voyez, les déplacements, le tout, enfin, je veux dire, tout ce qui fait qu'on est supposé être dans son élément, je veux dire, quand on arrive sur le plateau. J'aime pas le découvrir au dernier moment, répéter et ensuite tourner, ça me paraît... Oui, tout ce qui peut être mécanique me fait peur, oui. Mais de toute façon, c'est vrai que j'aime pas trop l'idée de construire vraiment, vraiment des choses comme ça, théoriquement, avant d'être là-bas, sur place, de voir mon metteur en scène, de voir mes partenaires... Parce que ce qui compte, je trouve, c'est la vérité du personnage. Donc, tout ce qui se ferait avant serait quand même fabriqué. C'est vrai que ça ne me paraît pas être...
Enfin, vous et pas vous, c'est une constante dans votre collaboration avec oui. André Téchiné.
Il y a des moments... C'est périlleux.
Oui, il y a des moments où on ne sait pas si c'est vous dans la vie. Par exemple, pour revenir à ma saison préférée, quand vous avez une scène de ménage dans la cuisine après le dîner avec votre mari et qui vous reproche la relation avec votre frère. Oui. Je veux dire... Vous pourriez être comme ça dans la vie, dire exactement ces mots-là, avoir ces gestes en prenant les assiettes.
Oui, 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 c'est vrai.
Où est le réel, où est l'imaginaire?
Sauf que j'ai jamais eu de frère, malheureusement, et que j'ai jamais d'homme ne m'a fait de scène de jalousie par rapport à un autre homme. Donc c'est quelque chose qui pourrait très bien se passer comme ça, et c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. C'est quelque chose sur lequel André ne m'a jamais vu ni entendu. Mais c'est vrai qu'on a une relation assez assez fraternelle quand même.
Est-ce que vous travaillez avec lui sur le scénario?
Non. Ah non, non, on se voit pendant qu'il écrit le scénario, il m'en parle, il me dit il faut que je te vois, on va parler du scénario, il faut que je te parle du film et tout ça, puis on parle de beaucoup d'autres choses. Mais pendant le tournage, c'est pareil, je me souviens quand on tournait ma saison préférée avec Daniel Auteuil, on disait toujours que bon, le soir on allait dîner, on devait parler. Mais on ne parle jamais des choses directement, vous voyez, et puis à la fin du dîner, c'est un petit truc indirect comme ça qui va... Mais c'est toujours très indirect avec André, c'est toujours tacite et assez indirect. On parle autour, on parle toujours autour des choses plutôt. Mais...
Vous allez au cinéma, beaucoup.
Beaucoup, oui.
Hein?
Oui, beaucoup. Enfin, assez, oui. Oui.
Et j'imagine que de temps en temps, vous avez des désirs. Par exemple, c'est Garrel qui vous a demandé de tourner dans Le Vent oui. de la Nuit, mais il y avait eu aussi, je crois, des relations avec Chorodenko.
On se rencontrait. C'est-à-dire que, oui, on se rencontrait, on se faisait des signes comme ça, et puis un jour, on avait fait un signe plus long et il m'avait dit que ce serait bien, que ça l'intéresserait. Je dis moi aussi, ça m'intéresserait beaucoup. Donc, mais c'est vrai que c'était lié au hasard des rencontres. Je pense pas qu'autrement on aurait tourné ensemble. Il n'y avait pas de raison qu'on tourne ensemble. Parce qu'on fréquente pas les mêmes gens, parce qu'on n'est pas dans les mêmes. Vous voyez, c'est ça aussi quand même. En plus, moi, c'est vrai que je sors pas énormément. Je vois surtout mes amis et je vais au cinéma et au spectacle, mais toujours avec mes amis. Donc, je vais pas beaucoup dans les. Remarquez.
Vous n'êtes pas du genre à prendre votre téléphone et à dire j'aimerais bien vous rencontrer, j'ai vu votre dernier film.
Ça m'est arrivé de te laisser des messages comme ça, de dire que pour des films qui m'avaient vraiment ému ou qui m'avaient beaucoup plu, comme le film de Lucas Bellevaux l'année dernière que j'ai trouvé absolument formidable. Donc oui, je crois que je l'ai laissé. Oui, il me semble bien. Oui, j'ai demandé ses coordonnées, je lui ai laissé un message. Oui, ça m'est arrivé quelquefois, bien sûr, de le faire, mais c'était plus pour laisser un message de. Parce que je trouve que c'est tellement difficile la sortie des films et je trouve qu'un message sincère quand on a vraiment aimé un film, je trouve que c'est toujours un truc qui fait, je sais pas, qui donne du plaisir sur le moment, c'est pas quelque chose de très durable, mais je trouve que ça fait toujours plaisir, donc ça m'est arrivé, dire j'aimerais travailler avec vous, je me sentirais, je sais pas. Dans le cas d'Arzantri, c'était très particulier parce que il avait un projet qui était un projet d'un film très très long, qu'il devait faire sur plusieurs années avec des acteurs européens. J'avais entendu parler de ça et moi j'avais été très bouleversée par Breaking the Waves, et donc je l'avais écrit par rapport à ce projet-là.
Vous
parce
avez
que
pleuré,
je sais...
rassurez-moi.
Oui.
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 Bon.
Oui. Ah, mais je peux pleurer au cinéma. J'aime beaucoup rire au cinéma, mais je peux pleurer, bien sûr, oui. Ah oui, oui, j'ai pleuré. Et donc, il m'a répondu très gentiment, très vite, en me disant que ben, pour l'instant, il avait... Je lui ai dit, je vous écris parce que je sais que vous ne voyagez pas et que donc, il n'y a pas de... Et c'était un film... Il voulait faire un film européen, donc... Bref, il m'a répondu pour me dire qu'il avait... pour l'instant abandonné ce projet, mais qu'en revanche il écrivait une comédie musicale avec Björk et qu'il y avait un rôle voilà, qu'il aimerait me proposer, si je voulais dire, qui était très éloigné de moi. D'ailleurs, je crois qu'il l'avait écrit au départ pour une actrice black américaine de 40 ans. Oui. Et comme ça m'intéressait de travailler avec lui, j'étais là-bas pour le rencontrer. Je me souviens, je tournais Place Vendôme, j'étais un samedi, fait un aller-retour pour aller le rencontrer à Copenhague. Et alors après, il a beaucoup parlé, mais c'est quelqu'un de très malin, hein, Lars von Trier. Il a beaucoup de talent, mais c'est aussi quelqu'un de malin. Il en a beaucoup parlé, mais d'une façon qui était... qui était plus in situ, comme on disait. Vraiment, vous voyez, il était... c'était, en réalité, je l'avais écrit par rapport à ce projet européen, je l'avais pas... Et puis, je voulais surtout lui parler, enfin, lui dire que c'est vrai que c'était un film qui m'avait vraiment bouleversé. J'avais fait ça comme ça un soir, je crois que c'est la première fois que je faisais ça. Ça l'a beaucoup touché, mais je trouve qu'après, il en a trop grand usage, quoi. Je trouve que c'est une chose qui aurait pu... qu'il le dise une fois ou deux comme ça, mais vous voyez, c'est une chose... Entre nous, c'est une chose vraiment très... Après, c'est devenu un truc de sortie de film, de promotion, ça m'a paru un peu... un peu extérieur.
Enfin, le tournage, manifestement, n'était pas très préparé. À force d'improviser, il vous mettait en risque.
Oui, ça, en risque, c'est pas grave, parce que moi, j'avais pas le poids du film, et que si vous voulez, puis c'était intéressant, il en avait parlé avant, on avait fait des essais, c'était son souhait, et il en avait parlé avant, c'était pas vraiment un risque. Il tourne tellement qu'après, il fait ce qu'il veut avec le matériel, c'est quand même... Non, ça me semblait pas très risqué, ça me semblait plutôt intéressant. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de compliqué, c'est vrai que la relation était très difficile avec Björk souvent, donc on est arrivé à des moments de désarroi, c'était du désarroi, et puis c'était décousu, parce que c'est vrai qu'il y avait des plages d'arrêt, qu'il y a eu des moments encore même plus difficiles que ça. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui se sont très très bien passées, hein. Ça a été quand même, moi je trouvais ça quand même très très intéressant. Très intéressant comme expérience, mais je peux pas dire que comme actrice, c'est un film qui m'a, vous voyez. Mais ça m'intéressait de faire une chose en vidéo pour la première fois, et d'improviser, et en anglais, et avec lui, et avec elle, voilà. Parce que c'était lui, parce que c'était elle.
Oui, enfin...
Mais c'était un tournage un peu difficile.
En même temps, on imagine mal Et on découvre dans votre livre que des tournages peuvent être très compliqués, très difficiles.
Ah bon, vous qu'on n'imagine pas ça?
Non,
mais ceci dit, si je vous envoie, si non. Oui, on n'imagine pas ça, mais...
Le froid, la galère de l'attente, les petits matins blêmes, les 4 heures de route pour arriver en grelottant dans un lieu de tournage où rien n'est préparé, où les grues marchent pas, on se retrouve complètement isolé.
Oui, mais ça, si je vous emmenais à l'opéra, pendant les répétitions, on voit les danseurs qui souffrent, qui sont là, dans leur tenue de travail, sans les décors, avec des problèmes, qui se font mal, qui pleurent, qui s'arrêtent, qui recommencent. Je veux dire, c'est le travail. Le tournage. Puis après, il y a le film, c'est autre chose. Or, c'est normal, heureusement, d'ailleurs, qu'on ne puisse pas imaginer le travail quand on voit le film. Sinon, je crois qu'on serait, ce serait très douloureux, on souffrirait, on ne pourrait qu'aimer les films par compassion pour le, tout le mal qu'on s'est donné. Heureusement que ça n'entre pas en ligne de compte.
Ça rentre quand même un peu en ligne de compte dans le regard du spectateur. Par exemple, le froid et l'isolement de cette usine, on le sent physiquement.
Non, mais ça, non, d'abord, c'est pas le froid qu'on peut sentir, je vais vous dire, c'était l'été, c'est le début de l'été. Donc c'est fait pour ça, mais c'est pas, ça me semble pas une condition indispensable, vous voyez, d'être dans les conditions réelles. Le froid, oui, c'est important, parce que si on est dehors et qu'on voit des gens qui ont l'air d'avoir chaud, alors qu'ils seraient supposés avoir de la buée qui sort de la bouche, c'est un peu gênant. Mais sinon, il faut que ce soit crédible, et des fois, pour que ce soit crédible, on utilise des choses très artificielles.
Alors, parlons de crédibilité. Entre la crédibilité du film de Lars von Trier et la crédibilité des films de Jacques Demy, il n'y a pas photo, parce que chez Lars von Trier, il y a un côté trucage de la réalité peut-être assumé.
Non, mais Lars von Trier, lui, c'est la démarche opposée, mais pour arriver quand même à la même chose, c'est-à-dire à une espèce d'hyper-réalisme, parce que même la façon dont filme Lars von Trier, où il filme de très près, de trop près, et d'une façon continue en vidéo, ce n'est pas non plus le regard humain, ce n'est pas non plus le regard normal, ce n'est pas un regard... c'est une exagération de tout. Alors, 2000, lui, le déportait, c'est vrai, avec quelque chose de très idéalisé, de très magique. Je me demande ce qu'aujourd'hui, 2000 ferait avec la vidéo, avec tous les moyens techniques. Je me demande comment il tournerait. Et ceci dit, la vidéo, c'est vrai que même des gens qui s'en sont servis et qui s'en servent encore aujourd'hui, je pense que si on... Ça dépend évidemment de ce qu'on veut faire, mais il y a des films, par exemple, où c'est vrai quand même que le 35 ne peut pas être remplacé. Alors c'est vrai que c'est très très bien parce que ça permet aussi à beaucoup de gens de faire des films qu'ils ne pourraient pas faire autrement. Et puis c'est vrai que si on veut être très près des visages et très près des choses d'une certaine façon, avec la vidéo on peut aller là où on ne peut pas toujours aller avec une caméra, mais j'espère que ce ne sera pas la mort du 35 parce que c'est quand même une chose irremplaçable et c'est vraiment du cinéma. Mais enfin bon, ceci dit, c'est l'évolution normale du cinéma. Le cinéma est en train de... Les caméras sont dans les mains de tout le monde filme, tout le monde... c'est vrai, c'est très très...
La seule chose, c'est que... Vous filmez ?
Non, oh non, non. Oh là là, non. Surtout pas.
Je fais des photos. Caméra familiale.
Oh là là, quelle horreur, non. Ah non, j'ai horreur de ça. Mais non, parce que alors là, quand on fait des films familiaux, moi j'en ai vu, j'en ai entendu, mais c'est absolument navrant. On se rend compte que les films réalistes, c'est pas du tout la réalité, c'est pas ça du tout. Non, mais parce que c'est du bavardage, parce que le son est pas formidable, parce que on n'arrête pas de se répéter, parce que tout paraît caricatural, je trouve. Alors que dans un film, c'est une seule prise, on garde ce qu'il y a de mieux, c'est quand même souvent des choses écrites quand même, donc c'est quand même mieux, c'est... Ah non, les films, ah non, ça je filme pas, j'aime pas ça du tout. Autant j'aime les photos, autant je déteste. Pour moi, ce qui bouge, ce qui est filmé, tout ça, c'est le cinéma, c'est vraiment de l'autre côté, c'est à côté. Je supporte pas quand il y a des gens qui sont là avec des petites caméras vidéo en train d'essayer de filmer, c'est... Oh, mais non, je trouve que ça démystifie tout. Parce que les professionnels qui se servent de caméras vidéo, c'est... C'est pas du tout le même usage. Ils essayent de cadrer. Il y a des choses. Il y a quand même une, vous voyez, il y a quand même un regard de quelqu'un qui, c'est pas simplement essayer d'enregistrer, de fixer sur un support étrange et virtuel maintenant, si vous voulez, des choses de la vie. Ça ne transmet pas la vie en plus. Sauf quand on essaye de saisir des choses de la vie, ça ne transmet pas la vie. C'est très, très rare.